Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, avant de survoler notre paracha, comme on le fait chaque semaine, je vais vous demander la permission, ou faire avec votre permission, parce que je connais déjà votre réponse, j'imagine, en tout cas. On va dédier notre cours à Léa Fanny Bat Henriette, qui est une rescapée de la Shoah, une des rares rescapées de la Shoah qui est centenaire et qui est dans une position très faible aujourd'hui. Et sa communauté nous a demandé de penser à faire des télélimes pour elle. Donc, avec votre permission, Rav, est-ce qu'on on donne notre cours à Léa?
Évidemment, la question ne se pose pas.
Rav Eli Lemel, notre paracha cette semaine, c'est Shoftim. Et, comme très souvent dans la Torah, il y a plusieurs lectures, évidemment. Mais là, très concrètement, vous avez remarqué qu'il y a trois lectures, y compris au regard de ce que disent les maîtres, vous allez nous expliquer ça, des tout premiers mots. Les maîtres nous disent, allez, on peut voir ça de toutes les façons, de trois façons, avec toutes les implications que ça signifie. Alors, expliquez-nous, on est tout ouïe.
Exact, alors c'est trois, c'est pas que trois, il y en a beaucoup d'autres évidemment. Mais on va dire, il y a plusieurs lectures qu'on peut faire sur ce premier passouk de la paracha, comme d'ailleurs sur les autres psoukim, et elles m'ont interpellé, parce qu'elles elles vont dans trois directions qui chacune sont des sources de réflexion. Alors, tout d'abord, de quel verset parlons-nous ? « Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sharecha ». Traduction littérale, « Shoftim v'shotrim », des juges. Veshotrim, généralement, on traduit ça par des policiers, certains traduisent ça par des officiers. Titen locha, tu te donneras pour toi, b'chol sha'arecha, dans toutes, littéralement, tes portes, tes ouvertures. Asher Hashem elokecha noten lecha lishvatecha, que Dieu te donne pour tes tribus. Veshavtu et ha'am mishpat tzedek, ils jugeront le peuple de manière équitable, avec un jugement équitable. Et donc, on rentre ici, en effet, en plein dans cette obligation d'avoir une justice qui fonctionne avec des juges intègres, droits, et ceux qui sont chargés de faire respecter la loi et de faire exécuter ce qui a été exprimé donc au tribunal. Très bien. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà la première lecture, et on va s'arrêter un instant sur celle-ci. La Torah insiste énormément sur cette notion de rectitude à l'intérieur du système judiciaire. On se rappelle de ce texte, « Vayehi bimei shofot ha-shoftim », ce fut à l'époque où jugeaient les juges, texte qui introduit toute l'histoire de Ruth. Et là-bas, on nous dit, mais c'est quoi cette histoire? Évidemment, les juges jugent, c'est leur fonction. On nous dit, non, c'est pas de ça dont il s'agit. L'époque dans laquelle on jugeait les juges, l'époque dans laquelle les juges eux-mêmes étaient loin d'être intègres, loin d'un univers de probité. Et donc, nos chachamim nous disent que, eh bien, lorsqu'il y a ce qu'on appelle ivutadin, c'est-à-dire, on va traduire ça de manière un peu forte, la perversion de la justice, lorsque les choses se pervertissent, lorsqu'elles ne sont pas droites, eh bien, malheureusement, ça a des incidences très très fortes. Au niveau du peuple juif, au passage, d'ailleurs, ce n'est pas juste de s'imaginer qu'il y a des jugements faux, mais il y a aussi le fait que la justice soit lente, que la justice prenne du temps, qu'il y ait un temps énorme entre le moment où, en effet, on est face à un différend et qu'on le règle. Et vous savez, malheureusement, qu'aujourd'hui, eh bien, la justice prend énormément de temps. Et parfois, ben, quand vous avez un conflit entre deux personnes, l'un doit de l'argent à l'autre, ben, il faut bien que le conflit soit réglé pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, Shoftim v'shotrim, Titen locha b'chol sha'arecha, et on va voir que le verset va nous dire Tzedek, Tzedek tirdof, qu'il faut absolument poursuivre la justice afin qu'on puisse véritablement s'installer sur cette terre et, comme le dit le verset, faire attention de ne pas prendre de shohad, de cadeaux corrupteurs, car en effet la corruption eh bien, va être à l'origine donc, de tout le dysfonctionnement. Là, je ne fais que, au fond, lire et traduire et commenter la première lecture la plus classique, mais qui, bien sûr, génère des implications beaucoup plus fortes. Et puis, une seconde lecture, alors cette seconde lecture commence sur la base d'une question que pose Rabbi Lubavitch. Il dit, au fond, c'est intéressant parce qu'on va voir ailleurs, dans les Nevim, dans les prophètes, eh bien que on va nous parler aussi de cette époque dans laquelle eh bien, on va retrouver à nouveau la justice. Et le texte nous dit « Vashiva shoftair kevarishona veyo atzair kevatrila ». Le prophète annonce et dit, et on parle de l'époque messianique, eh bien, on ramènera à nouveau les juges comme ils étaient au début, veyo atzair, et les conseillers. Et alors, la question qu'il pose est la suivante, mais au fond, où sont partis les shotrim, où sont partis ces fameux officiers, ces fameux policiers, pourquoi brusquement on ne nous parle plus de cela, mais on parle des yoatsim, des conseillers. Et la réponse est très intéressante. Au fond, dans l'époque pré-messianique, eh bien, la justice va être là, mais est-ce qu'on sera toujours d'accord avec ce qu'elle dit? Est-ce qu'on sera toujours d'accord avec la règle? Est-ce qu'on sera toujours d'accord avec la loi? Pas vraiment. Et donc, on aurait un système de shotrim, un système de policiers, un système d'officiers, puisque c'est souvent traduit de cette manière, qui seront là pour dire « attention ». Tu n'as pas d'autre choix, tu te dois de respecter la loi. Au fond, on n'a peut-être pas toujours envie d'être à l'écoute de cette loi, et donc il faudra qu'il y ait un système pour nous rappeler à l'ordre. Mais dit-il, lorsque le Mashiach sera là, eh bien, la conscience aiguë que nous avons, que la loi, c'est la vérité d'Hachem, et qu'il n'y a pas lieu de négocier quoi que ce soit autour d'elle, fera que l'on verra beaucoup plus ce que les Shoftim, ce que les juges nous diront, ce que le Sanhedrin, ce que le tribunal de Jérusalem nous dira comme étant l'expression d'un conseiller. Un conseiller, on va chez lui, on lui dit « conseille-moi, dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et donc, c'est peut-être vers cela qu'il faut tendre, c'est-à-dire d'une société dans laquelle eh bien, on arrivera à considérer qu'on n'a plus besoin de cette police parce qu'on considérera que la loi d'Hachem, telle qu'elle est exprimée dans la Torah et par les juges, eh bien, c'est au fond la meilleure des choses possibles pour l'individu, à l'image d'un bon conseil que l'on demande. Et puis une autre lecture qui est peut-être totalement dans un autre axe et qui va s'arrêter d'abord sur le terme de She'arecha. Avoir ses juges et ses policiers, ses officiers, titen lecha, tu te donneras pour toi, bechol She'arecha, dans toutes tes portes. Traduction littérale. Et ce sont les maîtres du Moussar ici qui nous ouvrent à une autre lecture. Et celle-ci est la suivante. Il parle des sh'arim, des ouvertures, mais l'ocha, mes propres ouvertures. C'est quoi mes propres ouvertures? Celles qui me permettent, à l'image d'une porte, d'ouvrir vers le monde ou de recevoir le monde. Eh bien, c'est tout simplement mes yeux, ma bouche et mes oreilles. Avec les yeux, je regarde. En même temps, je peux émettre. Regard est multiple. Avec la bouche, eh bien, on va émettre aussi des choses avec les oreilles. On va recevoir le monde, on va renvoyer dans le monde des choses. C'est très intéressant. Ils nous disent, shoftim veshotrim, le regard, la parole, l'écoute. Eh bien, n'oublie pas de mettre face à eux d'abord un shofet. Un shofet, c'est un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui sera capable de t'amener à réfléchir et de juger, est-ce qu'au fond, cette chose, il est bien que je la voie? Et parfois, ce n'est pas nécessairement l'univers de l'indécence, mais parfois, il est bon de détourner son regard pour ne pas voir quelqu'un dans une posture qui pourrait le gêner, ou d'autres choses du même type. Cette bouche, est-ce qu'au fond, elle doit prononcer ces mots, ou il vaut mieux se retenir et ses oreilles? Est-ce qu'elle doit véritablement entendre cela? Et c'est intéressant parce que la notion du shofet, la notion du juge, c'est celui qui pose la problématique et il est là en train de dire, mais au fond, dans quelle direction faut aller? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas? Et le shoter, eh bien, c'est celui, au fond, qui va nous amener à respecter cette parole du juge. On a à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous cette double dimension. On a cette réflexion, mais derrière, il faut de la volonté. Car en effet, on peut savoir pertinemment, et parfois on est convaincu du bien fondé ou du mal fondé de certaines choses, de certaines paroles, de certaines écoutes, de certains regards, mais on se rend compte qu'il nous manque cette volonté qui va nous permettre d'inscrire cet état de conscience dans une réalité complètement concrète. Être capable de faire preuve de discipline, vous savez, comme dans tellement d'autres domaines. Je vais prendre un domaine qui va peut-être vous faire sourire, surtout en veille de Shabbat, où toutes les mamans et les épouses, parfois les mariés aussi, parce qu'il y a des hommes qui aiment faire la cuisine, ont préparé des très jolies choses, des bonnes choses à table, et on sait très bien qu'il faut faire quand même aussi preuve d'un minimum de discipline par rapport à soi-même, parce que notre esprit, notre tête, c'est très bien que la gourmandise, c'est sympa, mais à un moment, il faut quand même un tout petit peu faire attention à son corps et à sa santé. Donc, on le sait, le chauffette, le juge est au courant, mais il faut le chauffeur, il faut celui qui est capable de mettre ça en application, de mettre ça en discipline. Et ça, eh bien, tout ça, c'est nous. Nous sommes à la fois le chauffette et le chauffeur. Alors, voilà un petit peu ces trois lectures. Comme vous le voyez, on a partagé une réflexion très simple au fond, mais qu'il est bon de réinscrire à l'intérieur de nous-mêmes. Shoftim Shotrim, le système juridique, le système judiciaire, la droiture, faire attention, tzedek, d'être dans la vraie justice. Et la justice aussi, savoir se rappeler qu'il faut juger le Kavzuchut de manière positive. Il ne faut pas être dans la stricte application de la justice, mais savoir faire preuve aussi de rachamim, de miséricorde à l'image du Créateur. Et puis, autre dimension-là qui nous renvoie à justement ce que le Rabbi dit, cette époque dans laquelle nous n'aurons plus besoin de policiers, cette époque dans laquelle justement, eh bien, on sera dans un rapport de conviction, un rapport où au fond on verra de la bienveillance et donc on aura envie d'être à l'écoute de la parole divine. Et puis le troisième élément donc, qu'on vient de voir, eh bien, c'est justement ces shoftim et shotrim qu'on doit faire l'ocha pour nous, chacun, à toutes nos ouvertures, bien s'interroger sur la bonne utilisation que nous avons de ces organes, de ces yeux, de cette bouche, de ces oreilles, face à Hachem, qu'on soit capable de le mettre en application de manière extrêmement concrète.
La bouche a deux fermetures, hein, Rav, vous savez.
Oui, exact.
Deux fermetures. Le lobe, c'est la fermeture des oreilles, les paupières, fermeture des yeux. Les yeux, il y a les lèvres, il y a la langue. Deux précautions valent mieux qu'une. Rav Eli Lamel, je vous remercie pour ces quelques mots et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et on part tout de suite pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom. On continue notre réflexion sur la paracha de cette semaine. Et alors, vous voulez parler de mégalomanie. Alors là, je peux vous dire que ça va intéresser du monde. Le premier, c'est moi. J'aimerais bien savoir comment on peut lutter contre ça, la mégalomanie. Cette paracha nous explique les origines de la mégalomanie et on y voit aussi des relations avec l'idolâtrie. Plus de limites, quoi.
Ah oui, mon cher Bernard, cette paracha, paracha de Shoftim, c'est donc la paracha qui parle de la cité juive idéale, pas idéale au sens inatteignable, mais idéale au sens de ces cités, de cette cité juive qui a fonctionné à l'époque où les Névi'im, les prophètes et les rois d'Israël, des rois tzaddiques, eh bien, ont géré la vie publique. Et alors, dans cette cité juive, il n'y a pas de place pour la mégalomanie et la folie et l'orgueil délirant des dirigeants politiques. Ceux qui se comporteraient de cette manière sont effectivement des gens qui se mettraient en danger, mettraient en danger la cité. Et ceci nous est exprimé d'une manière très particulière, et je voudrais qu'on se penche sur le sujet. La question est la suivante, finalement, qui crée la mégalomanie et la folie des dirigeants? Est-ce que c'est eux qui sont mégalomanes, fous d'orgueil, ou alors est-ce que d'une certaine manière, ce sont les gens qui sont autour d'eux qui le font, et on va s'apercevoir ici que ça peut venir de l'un ou de l'autre. Regardez ce que dit le verset, c'est donc dans Dvarim, dans la paracha, chapitre 16, le verset 21 et 22. L'otitalecha Asherah, nous dit la Torah, tu ne peux pas planter d'arbres servant donc à l'idolâtrie, tu ne peux pas non plus, kol etz etzel misbar Hashem Elokecha Asher Taselecha non plus, tu ne peux pas non plus mettre d'arbres là où il y a un autel des sacrifices pour Dieu, velotakiblecha matseva Asher Sani Hashem Elokecha, tu ne peux pas ériger des monuments que Hashem déteste. Ces monuments, ils ont fait référence ici à des monuments qui seraient en fait des monuments pour la Avodah Zara, qui sont liés donc à l'idolâtrie. Alors, les élèves du Harizal avaient l'habitude de dire la chose suivante. « Otita lecha Asherah, tu ne planteras pas pour toi une Asherah, un arbre d'idolâtrie. » Bien, ça fait référence au fait qu'un individu ne doit pas se transformer en objet de culte d'idolâtrie. Il ne doit pas être lui-même l'objet d'un culte idolâtre. C'est fondamental, parce que sinon, effectivement, eh bien, il se met en danger. Et en fait, ici, on a une mise en garde qui est adressée à chaque juif, et le verset dit, eh bien, pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, il dit, faites attention, ne vous transformez pas en objet de culte. Alors, nos sages nous disent, ne crois pas en toi, ne crois pas que tu peux échapper à soi, d'accord? Yohanan Gohen Gadol, qui est devenu un sadducéen et un détracteur de la vérité divine, ne pensait pas qu'il deviendrait un jour ce qu'il est devenu. Elisha ben Abouya, qui était un grand sage, ne pensait pas qu'un jour il deviendrait Acher, un homme qui allait complètement se détruire et détruire les gens qui le fréquentaient, etc., etc. Donc, toutes sortes de gens ont été frappés par cette folie qui consiste à devenir des idolâtres. Alors finalement, qui sont les personnages dans l'histoire de l'humanité que le peuple juif a rencontré qui sont devenus des idolâtres? Alors, le Midrash se trouve dans Shemot Rabba au chapitre 8, au paragraphe 2, il dit finalement que 4 rois se sont transformés en dieux. C'était Hiram, le roi qui a aidé donc à construire le temple à l'époque de Shlomo HaMelech. Le deuxième, c'est Nabuchodonosor, qui lui s'est cru au-dessus de Dieu après avoir détruit donc le premier temple, et Pharaon. Pharaon également, Pharaon, le maître égyptien, qui lui-même s'est cru être au-dessus de Dieu. Alors ce modèle de mégalomanie, on le connaît très bien, Staline, Mao, Hitler, l'histoire regorge de ces dictateurs qui deviennent en quelque sorte les dieux, entre guillemets, tout-puissants de l'humanité. Et finalement, ici, la Torah va s'adresser à chacun d'entre eux, disant, ne deviens pas fou comme ces gens-là. Ne deviens pas fou comme ces gens-là, parce que finalement, ces gens-là sont des gens qui peuvent, à un moment donné, perdre complètement le contact avec la réalité. Ben alors maintenant, on a dit, il y a 4 rois qui sont devenus. C'est qui le quatrième? Et là, on tombe sur quelque chose de tout à fait passionnant, mais qui nous concerne cette fois-ci dans notre vie très quotidienne. Ce quatrième roi est un roi qu'on appelle en hébreu Yoash. Yoash était roi de Yehuda. Il avait une mère qui était extrêmement cruelle. Elle a tué et anéanti la quasi-totalité de sa descendance. Et Yoash a été caché par un des membres de la famille dans un petit recoin du Saint des Saints. Vous savez que le bâtiment du Saint des Saints dans le temple était un bâtiment dans lequel personne n'avait le droit de rentrer. C'était un endroit qui était complètement préservé. Et lui, il est resté là-bas pendant 6 ans et il en est sorti vivant, au grand étonnement de tout le monde. Lorsqu'il est sorti, et il va raconter comme ça que Vaishtachavu la Meler, les courtisans et les dignitaires du royaume se sont prosternés devant lui et lui ont dit, si tu n'étais pas un dieu, tu n'aurais pas pu sortir vivant et tu n'aurais pas pu rester près de 7 ans. Plus de 6 ans, près de 7 ans, il est resté là-bas. Tu n'aurais pas pu rester près de 7 ans dans le Saint des Saints. Alors il lui a dit, il leur a répondu, il leur a dit, oui, effectivement, c'est vrai. Et là, nous dit le Midrash, il y a une espèce de dérive, d'accord? Il s'est pris pour un dieu, et là, il a complètement détruit son âme. Et là, il est devenu, complètement fou, d'accord? Et là, finalement, à la fin, il a été tué au cours d'un combat avec le roi de Haram. Alors cette histoire, elle est extraordinaire parce que c'est le quatrième roi. On a vu les 3 premiers rois, eux, c'est des gens qui sont sur le modèle qu'on connaît, le modèle de Staline, Mao, Hitler, etc. C'est des gens qui se prennent pour les maîtres du monde. D'accord ? Là, on a affaire à quelqu'un qu'on va transformer en Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a, et cette mise en garde ici, devient une mise en garde qui s'adresse à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la mise en garde de la Torah n'est pas seulement que chacun ne se transforme pas en Dieu tout-puissant, entre guillemets. C'est qu'il est interdit de faire à son voisin, à son proche, des compliments qui peuvent le rendre complètement fou, qui peuvent lui faire perdre complètement le contact avec la réalité. Alors, on raconte qu'une fois, le légendaire, entre guillemets, Mashgiach, le directeur spirituel, Rabbi Yechezkel Lichtenstein de la Yeshiva de Mir, il tournait parmi ses élèves, et à un moment donné, il tape sur l'épaule d'un élève comme ça, il dit « Ah, quel bachour, quel jeune homme extraordinaire, il connaît la moitié du Talmud. » L'élève lui dit « Non, pas du tout, Rav. » Il repasse une deuxième fois, il tape sur l'épaule, et là, il dit « Mais Rav, enfin, qu'est-ce qui vous arrive ?» Troisième fois, il retape à nouveau sur l'épaule, Là, il ne répond pas, il lève un peu la tête. Quatrième fois, il lui retape sur l'épaule, il dit « Ah, vous avez vu cet élève ? » Il connaît la totalité, il connaît la moitié du Talmud. C'est vraiment un géant en Torah. Et là, l'élève, il ne répond même pas. Et là, le Rav se tourne vers l'élève, il dit « Vous avez vu ?» Il croit là maintenant, il croit vraiment qu'il connaît la moitié du Talmud. Et il disait, vous voyez, il a expliqué à ses élèves, il leur a dit « C'est comme ça qu'un homme eh bien, plante une achéra, un arbre d'idolâtrie en lui, c'est comme ça qu'un homme devient un dieu, entre guillemets, un dieu à ses propres yeux, c'est comme ça qu'un homme se pervertit complètement, par le regard des autres. » Il y a donc dans ce verset qui nous est enseigné ici, à la fois une mise en garde pour le roi, pour le dignitaire, pour le Talmid Chacham, pour toute personne qui a un rôle à jouer dans la cité juive, mais il y a aussi une mise en garde qui est adressée aussi à son entourage. Une mise en garde qui nous est adressée finalement les uns aux autres. Vous savez que face à quelqu'un, on ne peut dire que la moitié des louanges. Face à un ami, quand on est en sa présence, quand on dit des louanges, on ne peut dire que la moitié des louanges. Manière de nous dire qu'en fait, on doit toujours, lorsque l'on est en relation avec l'autre et qu'on veut valoriser quelqu'un, compter ses mots. Pourquoi ? Parce que finalement, on peut aider une personne à perdre complètement le contact avec la réalité et à s'enfoncer dans l'orgueil et finalement à s'oublier complètement et à se détruire. Alors vous allez me demander finalement quel est le remède. Le remède, il est donné par le Chovot HaLevavot. C'est très intéressant, le Chovot HaLevavot, qui est un livre de Moussard très puissant, qui a été écrit il y a quelques siècles, nous demande de développer la Midat HaIshtavut. C'est une Mida, le trait de caractère de la HaIshtavut, qui est une espèce de constance et d'égalité dans nos réactions. Finalement, apprendre à développer vis-à-vis des insultes comme vis-à-vis des compliments, des attitudes qui sont des attitudes assez correspondantes. Ne pas être finalement en réaction face à un jugement négatif, et finalement ne pas être en émoi et comme un pan, quelque sorte, face à des considérations positives. Développer ce qu'on appelle la Midat HaIshtavut. Rav Yisrael Salanter, le grand maître du Moussard, disait que c'est l'amida, c'est le trait de caractère le plus fondamental dans les relations sociales. Midat HaIshtavut. Rester constant. Et d'où vient cette constance ? Elle vient tout simplement du fait que on agit au nom de la vérité, on agit au nom de la recherche de la vérité, on agit au nom du fait qu'on va faire un certain nombre de choses. On va faire du chesed parce qu'on pense que là on doit faire du chesed. On va ici dire un certain nombre de choses parce qu'on pense que les choses doivent être dites. En fait, on va apprendre tout simplement à agir, comme nos sages nous le disent, à cet adverbe Hachem Paolo. Fais les choses au nom du fait que Hachem pense que là, la Torah pense que tu dois les faire, pense que la situation aussi exige que tu les fasses, mais finalement, à la fois, fuis les provocations, fuis les honneurs. C'est pas seulement fuir les honneurs, c'est aussi fuir les provocations. C'est finalement bien réfléchir. Est-ce que finalement, dans mon attitude, je suis là maintenant en train de fabriquer des conflits, ou est-ce que je suis finalement en train de rechercher les honneurs ? Deux types de postures auxquelles il faut bien réfléchir. Et à partir du moment où on est bien conscient des risques auxquels on s'expose, alors effectivement, à ce moment-là, on va pouvoir mieux gérer et on va pouvoir avancer vers cette mida qu'on appelle la mida de Ishtavut, c'est-à-dire le trait de caractère dans lequel finalement on développe une certaine indifférence, que ce soit face au jugement négatif, voire pire, soit vis-à-vis donc des louanges que les gens peuvent nous adresser, d'une certaine manière rester insensible. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Tout simplement parce que nous sommes maintenant au mois de Elul, et que ce qui nous est demandé au mois de Elul, autant que de faire tshuva, c'est précisément de réfléchir sur nos traits de caractère, et il y a là ici une réflexion fondamentale qui est, je pense, au cœur de nos relations sociales, de nos relations personnelles. Voilà à tous, Shabbat Shalom.
Rav Mordechai Biton, merci, et Shabbat Shalom à Jérusalem. On retrouve tout de suite l'émission de Raphaël Usan Onek Shabbat, le meilleur de la musique juive à travers le monde. Excellente soirée à tous. Et je vous retrouve à 18h pour le journal.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.